Daniel. J'étais en congé d'office. Inutile de rester à l'hôpital. J'aurais dû rentrer chez moi, prendre une douche, manger et dormir 48 heures d'affilée. Au lieu de ça, évidemment, je me suis attardée dans le service. J'ai traîné dans les bureaux où j'ai accompli quelques tâches administratives de routine avant de rédiger à contre-cœur le rapport sur les dernières heures de Lucie. J'ai fait un compte-rendu minute par minute de tout ce qui s'était passé pendant mon service. Depuis l'examen médical que j'avais passé au rez-de-chaussée jusqu'à la décompensation de Jorge. L'arrivée des enquêteurs, l'exécution du mandat, la transmission des dossiers, mon expédition en solitaire pour aller chercher le fameux verre d'eau et mon bref passage dans la chambre de Lucie. J'ai noté l'humeur de Lucie, sa valse féline dans les rayons de lune. Pour finir, j'ai indiqué que j'avais rempli la stupide photocopieuse, répondu aux questions des enquêteurs, puis, après que Greg nous avait prévenus, lancé notre battue désespérée à travers les couloirs de l'hôpital. Je ne cessais de me repasser le film encore et encore et encore. Ce ressassement ne rendait en rien la situation plus facile à accepter. Je n'arrivais pas à trouver l'état d'engourdissement censé succéder à ce genre de drame. Jamais auparavant nous n'avions perdu d'enfant. Nous avions eu quelques tentatives de suicide. Nous avions appris que d'autres avaient rencontré un sort tragique après leur départ, mais jamais un enfant n'était mort alors qu'il se trouvait sous notre responsabilité. Je ne savais pas quoi faire pour soulager cette sensation d'oppression dans ma poitrine. Je n'avais pas pleuré depuis cette seule et unique semaine chez Tante Hélène, où j'avais compris que les larmes étaient superflues ou insuffisantes pour faire le deuil de toute une famille. Donc j'ai rédigé mon rapport. Quand j'ai eu fini, j'ai pris la pelote de fil que Lucie m'avait confectionnée et je l'ai agrafée dans le coin en haut à droite. 8 heures du matin. Les enfants étaient levés. Le soleil entrait par les fenêtres et l'agent de sécurité affecté depuis peu au service montait la garde devant les portes. Je suis descendue à la cafétéria de l'hôpital et j'ai attendu que Karen m'y retrouve. Il était plus de 9 heures quand Karen est finalement arrivée. Elle est entrée dans la cafétéria et s'est dirigée droit vers moi. Ses lunettes métalliques étaient perchées sur le bout de son nez. Ses cheveux gris cendrés ramenés en arrière en une coiffure désordonnée. Une administratrice qu'on avait tirée du lit et qui n'avait pas encore eu l'occasion d'y retourner. Elle marchait d'un pas vif, le regard droit. Toujours pro, ma chef. Elle dirigeait le service depuis au moins une douzaine d'années et je ne voyais pas qui aurait pu être meilleur à ce poste. Elle a avancé la chaise en face de moi, posé la pile de dossiers qu'elle trimbalait partout et repoussé ses lunettes d'un doigt. Elle a regardé le bagel que je n'avais pas touché, ma tasse de café. « Vous en voulez une autre ?» m'a-t-elle demandé en montrant la tasse. J'ai décliné. Mon estomac n'aurait pas supporté davantage de caféine et mes nerfs encore moins. Elle est partie chercher à manger, a garni son plateau et m'a rejointe. Elle avait une banane, un muffin et une tasse de thé Lipton fumante. Elle faisait ça par gentillesse. Nous avions un coin cuisine dans le service où nous pouvions prendre très exactement le même repas gratuitement. Mais c'est comme ça quand on a rendez-vous dans une cafétéria. Il faut rompre le pain ensemble, c'est la tradition. Elle a épluché sa banane. J'ai réussi à avaler une bouchée de bagel. Et ensuite, n'y tenant plus, j'ai pris la parole la première. Vous savez que je ne lui ai pas fait de mal, n'est-ce pas? Vous savez que jamais je n'aurais fait quoi que ce soit pour nuire à Lucie ou aucun autre enfant. « Je ne le sais pas », a répondu Karen. Et j'ai eu un haut-le-cœur. « Mais je le crois. Si on me demandait mon avis, je dirais que vous ne feriez jamais volontairement de mal à un enfant. » J'ai hoché la tête, pleine d'une poignante gratitude pour ce témoignage de confiance. « Je ne sais pas ce qui s'est passé », ai-je murmuré. « Moi non plus. » En l'occurrence, nous allons devoir nous en remettre à la police. Qui va s'occuper d'elle? Ai-je demandé. Je voulais parler du corps de Lucie. Je ne sais pas. Ses parents adoptifs sont sous le coup d'une inculpation pour maltraitance. Elle est passée directement de chez eux à chez nous. Est-ce que l'État va réclamer le corps, organiser des funérailles? C'est la première fois que je me retrouve dans une telle situation. On devrait s'en occuper, ai-je dit immédiatement. Ça donnera aux enfants l'occasion de lui dire au revoir. Daniel, Lucie n'a passé que quelques jours avec nous. Elle ne s'est jamais mêlée aux autres enfants. Ils ne se sont toujours pas rendus compte qu'elle n'était plus là. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Vu le faible impact qu'elle a eu sur leur vie, très peu de choses. Nous répondrons à toutes les questions, naturellement, mais je ne suis pas persuadée qu'ils en poseront beaucoup. Cette remarque n'a fait que me déprimer davantage. Je me suis tassée sur ma chaise. « Je trouve pas ça normal », ai-je murmuré. C'était une enfant, une petite fille de 9 ans. Et maintenant qu'elle est morte, elle ne manque à personne. Je trouve pas ça normal. « À moi, elle me manque », a dit Karen sans sourciller. « Et à vous aussi. » J'avais les yeux brûlants. J'ai détourné le regard, fixé le sol en lino bleu. « Rentrez chez vous », m'a dit Karen. « Allez courir, ou reposez-vous, hurlez ou méditez. Faites ce qu'il faut pour vous rétablir. » Vous êtes une infirmière exceptionnelle, Daniel, et une femme bien. Cette histoire va passer, vous allez vous remettre. Je veux travailler. Hors de question, j'ai besoin des enfants. C'est justement en m'occupant d'eux que je m'occupe de moi. Hors de question. J'observerai, je ferai de la paperasse. Je serai dans les pattes de personne, promis. Daniel, la police va revenir d'un instant à l'autre. Vous ne devriez pas être dans le service. Vous devriez être chez vous, en train d'appeler un bon avocat. Mais je n'ai pas... Karen m'a arrêté d'une main. Vous prêchez une convertie. Prenez soin de vous, Daniel. Vous êtes importante pour les enfants, vous êtes importante pour nous tous. J'aurais préféré qu'elle ne dise pas des choses pareilles. Je me suis essuyé les yeux et j'ai fixé encore plus intensément le sol de la cafétéria. Nous allons avoir 2 réunions de service, a fini par ajouter Karen. 14 heures pour l'équipe de jour, 23 heures pour l'équipe de nuit. Si vous voulez y assister, de manière non officielle, vous êtes la bienvenue. Il faut que nous établissions de nouvelles procédures pour que de tels incidents ne se reproduisent plus. Je suis aussi en train de mettre en place un soutien psychologique pour ceux qui en auraient besoin. Encore une chose à laquelle vous devriez réfléchir. J'ai hoché la tête. Elle m'avait donné un os à ronger, je prenais. À l'autre bout de la salle, j'ai vu Greg entrer dans la cafétéria et balayer les tables du regard. Il s'est dirigé vers moi, puis a hésité en voyant Karen. Mais celle-ci l'a aperçue à son tour. On aurait presque dit qu'elle l'attendait. Elle a récupéré ses dossiers, posé ses muffins par-dessus. « Il faut que vous preniez soin de vous », a-t-elle réaffirmé avant de s'éloigner, pendant que Greg arrivait. Il est venu droit vers moi. Il n'a pas fait mine d'aller chercher un petit déjeuner ni de prendre une chaise. Il s'est planté devant moi. « Allez, à la maison », a-t-il dit. « Je ne supporte pas l'idée », ai-je répondu en toute franchise. « Pas chez toi, Daniel, chez moi. » Alors j'y suis allée. Il s'est avéré que Greg partageait un 4 pièces avec 2 autres types. Comme beaucoup d'appartements du coin, celui-ci était né de la division d'une ancienne belle demeure avec parquet, 3 mètres de hauteur sous plafond et moulure ronde autour des spacieux bow windows. L'endroit donnait une impression de légère décrépitude, comme une matriarche vieillissante à la charpente solide mais au teint défraîchi. J'ai fait une remarque sur les corniches du plafond, Greg a haussé les épaules. Apparemment, l'architecture n'était pas son truc. Ses colocataires n'étaient pas là. Sans doute partis se promener au bord de la rivière, a-t-il marmonné. La journée était idéale pour flâner sur la Charles. Chaude, humide, vaporeuse. Il a mis les climatiseurs des fenêtres en marche tout en me faisant faire le tour du propriétaire. Ce qui n'a pas empêché que nous soyons tous les deux en nage avant d'arriver au bout du couloir. Il a ouvert la dernière porte et montré l'intérieur de la pièce. Ma piole, a-t-il simplement indiqué. Elle était plus en ordre que je ne l'aurais imaginé. Pas de serviettes ni de vêtements éparpillés par terre. Des meubles de base pour chambre d'étudiant. Un lit double, sans pied ni tête de lit. Une vieille commode en érable, légèrement de guingois et à laquelle il manquait un mouton. Un bureau en érable de la même époque, petit pour un homme de la taille de Greg, et qui paraissait plus petit encore à côté d'un fauteuil de bureau noir. Pas de poster, pas de photo sur la commode. Il y avait de la peinture crème au mur, des draps verts sombres sur le lit et des stores beige devant les fenêtres ensoleillées. Point final. Cette chambre n'était là qu'un pied-à-terre, un endroit où dormir, pas où vivre. Je regardais Greg en réalisant pour la première fois combien j'en savais peu sur lui. Pas de photo de la petite amie sur la table de chevet ? Pas de table de chevet, pas de petite amie. De la famille ? J'ai une sœur en Pennsylvanie. Tu parles jamais d'elle ? Tu demandes jamais. Un point pour lui. Je posais rarement de questions, à lui ou à quiconque. Quelle ironie du sort quand on y pense. Toute l'histoire de ma vie me précédait où que j'aille. Je le lisais dans le regard des gens quand on me présentait finalement. Oh, alors c'est elle dont le père a tué toute la famille. Résultat, je ne m'enquière pas des autres. Cela les inviterait à me poser des questions sur moi et il faudrait que je confirme les rumeurs qu'ils ont en tête. Tu la vois de temps en temps, ta sœur? Pas dernièrement. Pourquoi? Trop de travail, j'imagine. Il a posé son sac de sport au pied du mur. Nous nous sommes regardés d'un air gêné, trop conscients de la présence du matelas dans le coin. Pas beaucoup de déco? Ai-je fini par dire. Non. Tu comptes pas rester longtemps? Je passe pas beaucoup de temps ici. J'ai deux boulots et je mets tous mes sous de côté pour acheter une maison un jour. Je veux un jardin avec une clôture, un chiot, une femme et 2,2 enfants. Voilà l'objectif. Ici, c'est seulement une étape. J'ai rien répondu. C'était un joli rêve, qui lui allait bien. Il ne restait pas sans but dans la vie. C'était moi qui me trimbalais ce genre de problème, pas lui. Il s'est éclairci la voix. T'as soif? Oui. Nous sommes retournés dans la cuisine. De la vaisselle s'empilait dans l'évier. Le plan de travail aurait eu besoin d'un coup d'éponge. Greg a poussé un grognement de désapprobation, alors j'en ai déduit que ce désordre était l'œuvre de ses colocataires. Il ne s'en est pas occupé, cependant, et a ouvert le réfrigérateur d'un autre âge pour en sortir un Gatorade et un Coca Light. Il m'a tendu le Coca et a ouvert le Gatorade pour lui. T'aurais du rhum? Ai-je plaisanté en buvant la première gorgée fraîche. Il m'a considéré une seconde, puis a attrapé une bouteille de Captain Morgan au-dessus du frigo. Et il me l'a tendue comme par défi. À quel point avais-je envie de me détruire? Au bout de quelques instants, je lui ai rendu la bouteille sans l'avoir ouverte. Il l'a reposée sur le frigo. J'ai fini mon coca, il a fini son Gatorade. Et nous avons recommencé à nous observer en chien de faïence. « Je vais prendre le canapé », a-t-il dit. « Tu peux prendre la chambre. La clim devrait l'avoir rafraîchie maintenant. Je vais te chercher des draps propres. » « Tu m'as fait venir jusqu'ici pour dormir tout seul ?» Il m'a répondu calmement, « Je ne suis pas ton père, Daniel. Je ne vais pas te sauter. » Je l'ai frappé, violemment, avant que l'un ou l'autre ne s'y attende. Il a pris le coup en pleine mâchoire. J'ai entendu mes phalanges craquer. Sa tête, en revanche, a à peine bougé, alors je l'ai de nouveau frappé, cette fois-ci au ventre, qu'il avait dur comme du bois. Même pas un petit gémissement, connard de sportif. Je me suis déchaînée. Je l'ai giflé, je l'ai roué de coups désespérés. Je cognais ses flancs, son torse, ses épaules. Je frappais encore, encore, encore. Et lui restait là, comme s'il était une statue de marbre et moi un pigeon qui battait des ailes à ses pieds. « Je te déteste, je te déteste, je te déteste !» me suis-je entendu hurler. J'ai levé le genou pour porter le coup qui tue. In extremis, il a paré. Puis ses mains ont attrapé mes poignets et d'un seul geste, il m'a repoussé jusqu'au fond de la cuisine. C'était moi maintenant qui étais sur la défensive, mon petit gabarit cloué au mur par son corps massif. Il s'est penché vers moi, si près que je pouvais compter les perles de sueur qui parsemaient sa lèvre supérieure. Ses yeux étaient d'un brun profond, chocolat, avec un anneau doré au milieu. Il allait m'embrasser. Dans l'état d'agitation où je me trouvais, je n'arrivais pas à décider si j'allais lui rendre son baiser ou le mordre. « Je ne vais pas te sauter », a-t-il répété. « Salaud ! Quand je vais te lâcher, tu vas arrêter de me frapper. Tu vas aller au bout du couloir, te mettre au lit et enfin dormir un peu, pigé. Connard ! Tu te sens déjà mieux ?» J'ai grondé. Il ne lâchait toujours pas mes poignets. Et là, d'un seul coup, nos corps si proches l'un de l'autre, je l'ai senti tout dur contre ma cuisse. Il avait envie de moi. Ça m'a donné un sentiment de puissance que je n'avais pas éprouvé depuis des jours. Je me suis mise à bouger contre lui, en roulant légèrement des hanches. L'anneau doré autour de ses pupilles s'est contracté. Une autre perle de sueur s'est formée sur sa lèvre. J'ai levé la jambe droite, je l'ai mise autour de sa hanche et j'ai brusquement poussé mon pelvis vers le sien. Je me suis dit que sauter Greg, le prof de gym, serait peut-être la meilleure manière qui soit d'échapper à mes pensées. Il a baissé la tête, ses lèvres en suspens, juste au-dessus des miennes. J'ai de nouveau ondulé des hanches, jusqu'à sentir son érection exactement là où je la voulais. Je me suis mise à le caresser, lentement, doucement, en augmentant petit à petit la vitesse et la pression. Il haletait, moi aussi. Peut-être que nous n'allions pas bouger. Peut-être que nous allions faire ça tout habillés dans la cuisine. Ensuite, je prendrai du rhum, je l'avalerai d'un trait avant de quitter cet appartement à la con et de rentrer chez moi toute seule. Et là, pauvre de moi, j'ai revu Lucie, son petit corps pendu au plafond. Et je me suis effondrée. Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai eu envie de pleurer. J'en avais besoin, mais cela n'aurait pas suffi. Cela ne pouvait pas suffire. Ma mère, Nathalie, Johnny, Lucie. J'ai de nouveau frappé Greg. Faiblement cette fois-ci, avec lassitude. Puis je me suis écroulée contre son corps qui me soutenait, le visage enfoui au creux de son cou salé. Greg m'a prise dans ses bras. Il m'a portée jusqu'au bout du couloir. Il m'a mise au lit. Dors. J'étais plongée dans le noir, où je pouvais de nouveau sentir l'odeur de la poudre et du sang. Sauf que cette fois-ci, c'était moi qui tenais le pistolet, debout à côté du lit de ma mère. Tu disais que tu m'aiderais. Tu disais que tu l'obligerais à arrêter. Daniel, tu disais que tu me croyais. Daniel. La porte d'entrée qui claque. La voix de mon père ivre qui résonne dans les escaliers. « Chérie, je suis rentrée. » Et moi qui lève le pistolet. « Daniel. » Sang et poudre. Chant et hurlement. Amour et haine. L'histoire de ma vie. J'ai rouvert les yeux d'un seul coup. J'étais couchée sur le lit de Greg, recroquevillée dans l'obscurité fraîche, incapable de m'endormir. Le téléphone sonnait. Le bruit, en provenance du salon, a fini par me tirer de cette léthargie qui suit les larmes. J'ai roulé jusqu'au bord du matelas, testé mes jambes et estimé qu'elles me porteraient. J'ai ouvert la porte de la chambre et entendu la voix grave de Greg dans le salon. « Ouais, je peux venir. » « À quelle heure arrive le gamin ? Quel protocole ?» Le silence régnait pendant qu'il écoutait les réponses. Il parlait avec Karen. Un nouveau patient arrivait dans le service, et pour une raison ou une autre, Karen voulait que Greg soit présent pour les réjouissances. Je suis entrée dans le salon et j'ai attendu qu'il me voie. Il avait les cheveux mouillés par la douche qu'il venait de prendre et portait une serviette bleu marine nouée à la taille, rien d'autre. J'ai regardé son torse très bronzé, sa musculature sculptée, et j'en suis restée la bouche sèche. Je me suis réfugiée dans l'unique salle de bain et je me suis passée de l'eau froide sur le visage en essayant de reprendre mes repères. Greg était Greg. Greg avait toujours été Greg. Mais je n'avais jamais réalisé à quoi il ressemblait quand il était nu. J'ai attendu encore une minute, puis j'ai ouvert la porte de la salle de bain et trouvé Greg dans le couloir. Il avait passé un short et un polo blanc, c'était plus facile pour nous deux. « C'était Karen, » m'a-t-il expliqué. « Écoute, il faut que j'aille au boulot. Tu peux rester ici si tu veux. Mes colocataires rentreront sans doute tard. »« Quelle heure est-il ? » ?»« 4 heures de l'après-midi. » J'ai ouvert de grands yeux. Peut-être que je m'étais assoupie en fin de compte. « Qu'est-ce qui se passe ?» Une admission. Il se dirigeait déjà vers le bout du couloir pour aller chercher son sac de sport. Je l'ai suivi. « Pourquoi toi ?» Le gamin a commis un acte de violence. Ça rassurerait Karen que je sois là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a poignardé sa mère. Quand ça ? Ce matin, apparemment. La mère va bien ? Je ne sais pas. Il a quel âge ? 8 ans. Catatonique, d'après les urgences. L'état de choc, à tous les coups. Et quand ça se dissipera, la panique prendrait le relais et l'enfant explosif exploserait. On ne devrait pas s'ennuyer cette nuit. Greg a enfilé un jogging en nylon par-dessus son short, mis son sac sur son épaule, et en 2 coups de cuillère à peau, il était prêt à partir. J'ai regardé. Il m'a regardé. Un bleu à peine visible altérait le dessin de sa mâchoire. Je me suis avancée sans réfléchir. J'ai effleuré le bleu du bout des doigts et sur la pointe des pieds, j'ai doucement embrassé la marque que j'avais laissée sur sa peau. « Je suis désolée », ai-je dit. J'étais sincère. « Daniel !» a-t-il dit d'une voix enrouée. « Quoi ? tout n'a pas toujours de rapport avec toi. Souviens-toi de ça, d'accord? Tout n'a pas toujours de rapport avec toi. D'accord. J'ai de nouveau embrassé sa mâchoire. J'ai senti le parfum de sa peau fraîchement lavée et je me suis écartée. Il est parti travailler. Moi, il y avait d'autres choses dont il fallait que je m'occupe.